Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Transistor et Radio Boa pour ce numéro inopiné de Bien au contraire, l'émission qui réfléchit sans en avoir l'air. Une surprise entre deux de nos rendez-vous habituels pour fêter le printemps. Bien au contraire a donc aujourd'hui le très grand plaisir de recevoir, en personne et en studio, Sandrine Rousseau, députée Les Écologistes de Paris, enseignante-chercheuse en économie de l'écologie, qui vient de publier un essai aux éditions La Meute, « Tu nuis à la cause ».
Bonjour.
Bonjour Sandrine Rousseau. Bienvenue.
Désolée parce que je l'ai un peu stressée parce qu'on a dû aller vite. C'est pour ça qu'il a la voix qui tremble un peu, c'est de ma faute.
C'est vrai qu'on a pas mal couru. Ben, merci d'avoir accepté. Donc cet essai, c'était pour vous une occasion de poser un peu et de développer tranquillement votre pensée ?
Oui.
Au lieu de dire non à chaque fois qu'on vous demande si vous cautionnez la violence, etc.
Bah disons que les interviews à la télévision, ça se résume souvent c'est 10 minutes, guère plus, et on passe à peu près 6 minutes 50 à répondre à est-ce que vous soutenez Mélenchon ou est-ce que vous ne soutenez pas Mélenchon, est-ce que vous condamnez Mélenchon ou est-ce que vous ne condamnez pas Mélenchon, et après il reste 3 minutes pour répondre à l'actualité. Donc il y a très peu d'espace en réalité dans le monde médiatique actuel pour développer une pensée. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment un sujet parce que avant il y avait des grandes émissions politiques pour les plus vieux d'entre nous, dont je fais partie ici. Il y avait des émissions d'une heure comme 7 à 8. Il y avait comment ça s'appelait avec j'ai pas tous les titres qui me reviennent, mais il y avait plusieurs émissions en format une heure où il y avait la possibilité vraiment d'aller au fond des choses. Le rythme de nos vies se sont accélérés et le rythme des interviews politiques aussi. D'où l'importance de poser des idées par écrit. Et Tu nuis à la cause, c'est un petit livre qui répond à cette phrase que j'ai beaucoup entendue, parce qu'on m'a beaucoup reproché de nuire à la cause, à toutes les causes, au féminisme, à l'écologie, de faire monter l'extrême droite à moi toute seule, d'empêcher de penser, on peut plus rien dire. Enfin, toutes ces phrases, je les ai entendues des dizaines de fois et je suis pas toute seule à les avoir entendues. Donc, ce livre prend ces phrases au sérieux et décortique et répond à ces injonctions.
Mais je sais pas si vous êtes pas un peu une icône, j'ai l'impression que vous twitteriez ou vous posteriez « Bonjour », il y aurait des commentaires désagréables en dessous.
Alors moi, je vais vous dire, vous savez, si vous me mettez dans une pièce, il y a un fasciste ou un extrême droitier dedans, vous le voyez immédiatement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme de réaction du corps qui se fait dès que je rentre dans la pièce.
Vous êtes un allergène.
Je suis un allergène à l'extrême droite, exactement. J'avais jamais posé ça comme ça, mais c'est tout à fait ça.
Non, mais c'est bien. Et donc, votre bouquin, là, il s'adresse à Tonton. Alors, c'est pas Tonton Réac, c'est Tonton qui dit « Bon ben, on est déjà arrivé, c'est pas mal ».
Voilà, exactement.
Vous vous êtes déjà bien sortis de l'affaire, les femmes, hein, on a fait des progrès. Les écolos, ben, on fait gaffe quand même, on prend le vélo, on trie les déchets, faudrait peut-être pas demander plus.
C'est ça. Tonton, c'est pas un mauvais bouc. Tonton, c'est pas Pascal Pro qui, lui, a un projet politique très établi, très clair. Il veut que l'extrême droite gagne. Tonton, à qui je m'adresse dans ce livre, c'est quelqu'un qui a pas complètement réfléchi, qui est pas très politisé, qui a pas réfléchi à sa position sociale, et que tous les mouvements sociaux actuels agacent. C'est-à-dire que les féministes, elles l'agacent, les mouvements antiracistes l'agacent, LGBTQIA+, on s'en sort plus, ça l'agace aussi, l'écriture inclusive, on n'en parle pas, enfin voilà. Et donc c'est un sentiment d'agacement. Il a l'impression, ce tonton, qu'on l'accuse alors qu'il a rien fait, et du coup, moi, ce tonton, il m'intéresse parce que c'est une cible pour l'extrême droite, parce que l'extrême droite fait commerce politique de cet agacement. C'est-à-dire qu'elle va chercher cet agacement et elle s'appuie là-dessus pour leur dire venez avec nous, vous ne serez pas dérangés, vous inquiétez pas, on ne vous parlera pas des inégalités de genre, on ne vous parlera pas d'écologie radicale, avec nous, vous serez tranquilles. Et c'est pour ça que je voudrais m'adresser à lui, mais je dois quand même préciser qu'on a tous du tonton en nous, hein. C'est-à-dire que c'est pas une personne extérieure, ce serait trop facile. Il y a tous des éléments qu'on n'a pas suffisamment réfléchis, pas déconstruits, pas analysés. Et donc, c'est aussi à une part de nous que je m'adresse en disant réfléchissons ensemble. Si l'écriture inclusive t'énerve, eh bien ce livre est fait pour toi.
Parce que l'écriture inclusive, c'est absolument fondamental.
Oui, alors ça, oui, bien sûr, c'est absolument fondamental l'écriture inclusive. En fait, l'écriture inclusive, quand on parle de ça, on pense point médian. En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, c'est mettre le féminin et faire apparaître dans l'écriture la partie féminine. Mais il faut bien comprendre que quand on apprend aux enfants à parler, et on fait très attention à ce que les enfants parlent bien, parce qu'on sait que c'est important de bien parler pour en près bien penser, pour réussir à l'école, etc. Et donc, on les corrige beaucoup. Et une des règles fondamentales de notre grammaire française, le masculin l'emporte sur le féminin. Et donc, dès tout petit, dès 18 mois de 2 ans, on apprend aux enfants que le masculin l'emporte sur le féminin. On apprend à une petite fille que si son frère rentre dans la pièce, eh bien, elle disparaît de la langue.
Vous avez une jolie phrase, vous dites, il y a 500 femmes et un bébé, et tout devient masculin.
Ouais.
C'est
un effacement total. Et il faut savoir que cette règle, elle est issue de l'Académie française, qui a édicté cette règle au XVIIIe siècle, parce que selon cette académie, le mâle a plus de valeur que la femelle. Et c'est au moment, le XVIIIe siècle, où il y avait des salons littéraires tenus par des femmes qui étaient des contre-pouvoirs très importants, des lieux de réflexion politique, philosophique. Et donc, cette règle, elle est faite pour contrer ces salons littéraires. Donc, en fait, c'est pas du tout une règle ancestrale de la langue française, ça n'est pas du tout une règle traditionnelle, c'est une règle patriarcale qui a été imposée pour effacer les femmes de la pensée. Donc, en fait, cette écriture inclusive, moi je veux bien discuter du point médian, mais par contre le fait qu'il y ait la nécessité de visibiliser les femmes dans notre langue, c'est très important en réalité.
Mais les femmes, elles sont éliminées de partout. Il y a l'effet Mathilda, c'est-à-dire oui. qu'on élimine les femmes de la science par exemple, on les a éliminées pendant très longtemps. Au Moyen-Âge, il y avait des femmes médecins, elles ont disparu pendant presque 4 siècles jusqu'au bien début sûr. Du 20e. Donc ça continue comme ça. Donc là, ce que vous êtes en train de convaincre tonton, c'est que vous lui piquez pas grand chose finalement, vous essayez d'avancer un peu.
Ça va bien se passer.
Ouais, ça... Tiens, ça me rappelle non, Darmanin, dis donc.
On pique rien, juste il y a nécessité de rééquilibrer un peu les choses. Mais pareil sur l'écologie. Quand on s'énerve dans tous les médias, autour de beaucoup de tables de famille, quand on balance un paquet de soupe sur un tableau, enfin... Je comprends qu'on ait peur pour l'œuvre d'art qui est très importante, mais je veux dire, c'est aussi une alerte donnée sur la gravité de ce que nous sommes en train de faire sur la planète. Et en fait, qu'il y ait à ce point-là une espèce d'incapacité à penser au-delà du geste et juste à condamner, à dire c'est inadmissible, c'est impossible. Moi, je suis allée voir parmi les militants, il y en a qui l'ont fait en France, et il y avait 2 militantes notamment que je suis allée voir en garde à vue quand elles ont été arrêtées, parce que, vous savez, quand on est parlementaire, on peut aller voir les gens qui sont privés de liberté, donc on peut aller les voir en garde à vue. J'étais allée les voir et en fait, c'est quand même troublant de voir des femmes qui juste alertaient sur la possibilité pour elles d'avoir un avenir sur cette planète, ce qui me semble quand même pas une demande excessive, et de voir à quel point elles étaient traitées en garde à vue, dans des locaux évidemment désastreux comme à peu près tous les locaux de garde à vue, et puis avec beaucoup de violence d'État contre elles, qui juste disaient attention, ce qu'on est en train de faire, c'est quand même de faire en sorte qu'on prend plus soin d'une œuvre d'art dans un musée que de nos conditions de vie sur Terre, et peut-être que c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut réfléchir, peut-être qu'il faut préserver les deux, et pas que l'un des deux.
Parce que vous expliquez aussi, parce que tonton, il vous dit, mais c'était quand même avant, et les femmes, elles savaient rester à leur place, etc.
C'est que par exemple... Tonton est nostalgique, ouais.
Tonton est un peu ouais. nostalgique. Vous expliquez que ce qu'on a appelé les suffragettes, ce que étaient plutôt des suffragistes, suffragettes, c'était un peu moqueur, comme les munitionnettes, par exemple, c'était les femmes qui travaillaient pendant la guerre de 14, que c'était beaucoup plus important, qu'il y a eu des attentats au 19e siècle, au début du 20e siècle, il y a eu des attentats, il y a eu un tableau, le miroir de Vénus, qui a été lacéré à coups de hachoir.
Par les suffragettes, oui.
Par les suffragettes, donc c'était moins cool que maintenant, finalement. Finalement, Sandrine Rousseau, c'est pas la terroriste absolue, la féminazie.
Alors, là, il y a beaucoup de choses dans votre question. Alors déjà, prenons juste un peu les mots que vous venez de prononcer, féminazi, éco-terroriste, Khmer vert. Enfin, je rappelle quand même que le régime nazi a exterminé 6 millions de personnes, que les Khmer rouges, donc référence à laquelle on s'adresse quand on parle des Khmer verts, sont des gens qui ont tué 20% de la population du Cambodge. Et quand on parle d'éco-terroriste, on renvoie quand même à une histoire terroriste en France, où il y a des gens qui sont allés dans des salles de spectacle tuer le maximum de personnes à l'aveugle. Il n'y a aucun écologiste en France qui n'a jamais tué personne et qui n'a même jamais eu envie de tuer personne. Il n'y a pas une femme qui a eu des actions violentes contre les personnes. Donc ces mots-là ne sont pas mis au hasard dans le débat public, mais il est absolument incroyable que ces mots soient posés sans aucun problème sur les plateaux télé et que par contre ce soit nous qui soyons accusés de nuire à la cause et d'être excessive et d'être radicale. Parce que moi, le terme d'excessif, je l'ai entendu mais des milliers de fois. On m'a qualifié moi d'excessif des milliers de fois. Mais moi, j'ai jamais traité personne de nazi comme ça. Et en fait, ces mots ne sont pas juste des mots. C'est-à-dire que, je sais pas si vous vous souvenez, les soulèvements de la Terre ont été dissous par Gérald Darmanin parce qu'il estimait que c'était un mouvement éco-terroriste. Et quand ils ont été dissous, je me suis encore rendue dans une garde à vue pour aller voir les gens qui étaient gardés à vue à ce moment-là, les fondateurs de ce mouvement. Il se trouve qu'ils étaient retenus dans les locaux de l'antiterrorisme en France. Et il faut bien mesurer ce que c'est des locaux de l'antiterrorisme. C'est au sixième sous-sol, c'est avec des portes blindées de partout, des sas de sécurité en veux-tu en voilà, des obstacles à l'entrée. Enfin, je veux dire, c'est des locaux qui sont prévus pour que les organisations les plus violentes au monde ne puissent pas venir reprendre leurs troupes. Donc, qu'on mette des gens qui veulent manger bio et qui demandent à ce que l'eau soit pas pleine de pesticides dans les locaux de l'antiterrorisme, en fait, c'est ça le résultat de ces mots éco-terroristes dans le débat politique. Et en fait, ça, c'est irresponsable. Ça nuit à la cause. Ça, c'est pas du tout à la hauteur.
Voilà. Et Hollande s'était servi des lois d'urgence absolument, pour empêcher des écologistes d'aller manifester.
Tout à fait.
Des lois d'urgence qui avaient été émises après les attentats
de novembre. Il a même assigné à résidence un paquet de militants écologistes au moment de la COP21, ce qui était absolument, encore une fois, incroyable. C'est-à-dire assigner à résidence des écologistes. Quoi.
Vous allez pouvoir y retourner voir Rima Hassan.
C'est pour ça, quand on dit soutien Rima Hassan.
Ben oui, quand même.
Soutien Rima Hassan. Ouais.
Oui, mais donc ça n'a plus de sens quand on voit à l'heure actuelle, juste après les municipales là, qu'on vient de traverser, qu'on voit la façon dont a été traité Bali Kayoko. Ouvertement, c'est plus la fenêtre d'Overton, c'est une porte cochère qui est largement ouverte.
Mais en fait, c'est ça l'objet du livre, c'est de dire attention, parce qu'en fait, on nous impose, on nous demande d'être poli, on nous demande d'être sage, on nous demande d'être respectable, on nous demande de ne pas être insolent, de respecter toutes les normes et toutes les règles du débat politique. Mais en fait, ces injonctions à la politesse sont une manière de nous éteindre, de nous empêcher. Et je le dis aux auditeurs et auditrices, nous n'avons jamais gagné aucune lutte en restant polis et sages et assis sur notre chaise. Ça n'existe pas. Et évidemment que l'écologie, même si elle dit s'il te plaît, pardon, excusez-moi, vous pourriez arrêter votre pesticide, en fait, elle est de toute façon tellement contre le capitalisme et le système de croissance productiviste que, je veux dire, c'est impossible qu'elle rentre dans la norme et qu'elle soit jugée respectable par l'ordre bourgeois. C'est impossible. Donc c'est en cela que pour moi l'écologie, d'ailleurs, ne peut être que de gauche, puisque profondément, c'est incompatible avec un système de croissance productiviste et aussi avec un ordre bourgeois qui nous impose des mots, qui nous impose une codification de nos actions. Et ça, c'est pas possible en fait. Et c'est pour ça que ce livre, à la fin, c'est vraiment un message envoyé à tous ceux et toutes celles qui le liront, qu'ils soient tonton, tata ou qu'ils soient la nièce autour de la table qui arrive et qui en a marre du patriarcat. C'est de dire, mais là en fait, maintenant, on ne baisse plus la tête, on ne répond plus aux injonctions d'être dans le rang, de rentrer dans le rang. C'est parce que nous serons insolents, c'est parce que nous serons impertinents et impertinentes que l'on gagnera. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'on peut gagner.
on peut gagner. En fait, la France n'est pas majoritairement raciste. La France n'est pas majoritairement xénophobe. La France n'est pas majoritairement d'extrême droite. Il y a un socle de 30%. Il n'est pas petit, je ne le nie pas. Mais en fait, aujourd'hui, si Bolloré dépense autant d'argent dans ses radios, ses télés, ses livres, etc., c'est aussi pour nous inculquer des idées dans la tête et pour nous empêcher de gagner. Et il n'a jamais mis autant d'argent là-dedans. Et s'il met autant d'argent, c'est parce qu'il a peur qu'on gagne. Donc, prenons cette peur au sérieux, parce que si on n'était pas en capacité de gagner, il aurait moins peur. Donc, on arrête d'être comme acculé par cette espèce de rouleau compresseur de la bienséance. Et on y va. Oui, on sera impoli. Oui, on sera pas propre sur nous. Oui, on sera mal coiffé et on aura des tenues qui vous plairont pas. Mais en fait, c'est comme ça qu'on gagnera, quoi.
Puis c'est pas très grave, c'est pas ça qui va faire s'effondrer la biodiversité.
Et c'est pas ça qui va faire s'effondrer la biodiversité, je vous le confirme.
Alors il y a même dans ce livre-là, vous reprenez un petit peu votre bâton d'économiste et vous expliquez comment il faudrait absolument sortir du système de marché.
Oui.
Parce que c'est absolument impossible d'espérer progresser en restant dans un système tel qu'il est à l'heure actuelle. Parce que même si tonton veut que le système y reste fixe, un système n'est jamais fixe. Soit il progresse, soit il régresse.
C'est ça. C'est qu'en fait, le truc du capitalisme, c'est qu'il n'a qu'une vocation, c'est que tout devienne marchand. Plus la sphère de ce qui est marchand progresse, et plus lui s'enrichit et progresse avec. Et donc les capitalistes progressent avec.
Ouais.
Et aujourd'hui, on le voit, il faut ressortir du marché les biens absolument indispensables à nos vies, l'eau, la terre,
l'énergie.
L'énergie, mais aussi le logement, mais aussi l'école, mais aussi la santé, mais aussi la culture. En fait, tout ce qui fait que notre vie soit dans un tissu de liens, que notre vie ait du sens, que notre vie soit agréable, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça dure la vie, on n'en a qu'une. Donc, tout ce qui fait que notre vie a du sens et qu'elle puisse se déployer, enfin juste qu'on puisse vivre, eh bien il faut le sortir du marché. Parce que si vous confiez l'eau à des multinationales ou à des entreprises, eh bien leur seul but sera de faire du profit. Jamais ce sera votre santé. Ça ne peut pas être votre santé leur objectif. Sauf si, parce que tout le monde est malade, alors ça entachera leur profit. Mais je veux dire, au fond, une entreprise n'a qu'une seule vocation, c'est d'augmenter le taux de profit.
Et votre santé leur permet de gagner de l'argent aussi.
Absolument. Et aujourd'hui, on a des politiques libérales, et d'ailleurs, ça c'est aussi une partie du livre, des politiques libérales qui affaiblissent notamment le système de santé publique, qui affaiblissent l'école publique, et qui organisent une fuite vers le privé des malades, des élèves, mais aussi des professionnels qui travaillent dans ces secteurs, tellement les conditions de travail dans le public sont devenues difficiles. Et moi, je ne supporte plus les libéraux qui, du matin au soir, nous expliquent dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale française qu'il y a deux camps qui s'opposent, qui seraient équivalents l'un à l'autre, et qu'au milieu de ces deux pôles, il y aurait la sagesse et la raison qui serait le camp libéral, comme s'ils n'étaient pas responsables de la situation dans laquelle nous sommes, alors qu'ils sont au pouvoir depuis maintenant des dizaines d'années, et comme si la situation politique, économique, écologique n'avait rien à voir avec leur mode de gouvernement. Enfin, c'est trop facile, quoi. Mmh. Donc, évidemment, ce libéralisme-là est en train de s'effondrer faute d'adhésion de la population. Et donc, la population s'éclate et notamment va vers l'extrême droite pour une partie parce qu'elle a peur. Et une autre partie de cette population appelle à un changement radical, profond et de rupture de notre système économique et social.
Et puis aussi parce que les néolibéraux les poussent dans les bras des fascistes, parce que c'est quand même mieux que la gauche.
Bien sûr. Le jeu que joue actuellement la Macronie dans l'Assemblée nationale avec le Rassemblement national, ça ne fait pas une ligne dans les journaux, quasiment pas, à part quelques journaux engagés évidemment, ça ne fait pas une ligne aux 20h des télés, mais pourtant c'est un jeu absolument mortifère. C'est-à-dire qu'on a eu le barrage républicain donc contre le Rassemblement national, donc un barrage profondément antifasciste au départ, puisque le Rassemblement national trouve ses racines dans le fascisme. Donc
on a évidemment un camp antifasciste qui s'était mis en place en disant jamais le fascisme en France. Ça a donné les dernières élections législatives. Et depuis, la Macronie n'a eu de cesse que de dire LFI égale Rassemblement National. Et maintenant, on est presque en train de basculer en disant on va faire un barrage anti-LFI, quoi. Et en fait, j'interpelle tout le monde là. On devient fou, les amis.
Les antifascistes sont fascistes, sont plus dangereux que les fascistes.
Oui, mais c'est une inversion du langage, c'est une inversion de la responsabilité qui, historiquement, on sait exactement quels intérêts ça sert, mais que le camp de libéral se prête à ça aujourd'hui, ça dit aussi à quel point on est à la fin d'un cycle du capitalisme qui, voyant qu'il n'arrive plus à trouver de légitimité, se tourne vers les extrêmes. Et en fait, c'est historiquement le chemin. Il est déjà tracé. Donc, pourquoi on refait les mêmes erreurs? Et pourquoi, à gauche, on passe notre vie à se disputer alors que, objectivement, la menace en face est grave, quoi.
Ouais, moi, je vous invite à lire Yoann Chapoutot, Les Irresponsables.
Et bien sûr, l'ai lu, monsieur.
Non, c'était pas à vous, c'était aux auditeurs. Ça peut vous donner une idée un petit peu de ce qui se passe.
Je vous conseille aussi de le lire.
Oui, de ce qui se passe à l'heure actuelle. Et le problème, c'est comment on fait? Parce que là, vous dites, on va gagner, mais on va gagner
non,
comment?
Non, je dis, on peut gagner. Je n'ai pas dit, on va.
On peut gagner comment? Parce que, en fait, quand on les écoute, il n'y a pas, on gagne par exemple les législatives, le NFP arrive en tête et maintenant on ne tient plus compte des résultats des élections.
C'est pour ça qu'il faut aller encore plus loin, c'est-à-dire que le NFP n'a pas permis une victoire suffisante pour écraser le game et faire en sorte qu'il n'y ait pas de discussion autour du fait que nous soyons autour de la table. Mais moi j'appelle mes collègues de gauche, moi je parle qu'aux collègues de gauche, hein. Les autres ne m'intéressent pas tellement en réalité. Et donc je leur dis, on arrête les bêtises là, parce que ce qui est en train de se passer, c'est que moi j'entends que les uns soient infréquentables, j'entends que les autres sont des traîtres, etc. Mais enfin, comment vous allez expliquer à vos enfants que parce que les uns étaient infréquentables, les autres c'était des traîtres, etc., on a laissé le fascisme au pouvoir? En fait, moi je sais pas expliquer ça à mes gosses, en fait. Je sais pas expliquer ça. Par contre, je sais expliquer que la gauche s'est mise en ordre de bataille malgré nos différences, et elles sont puissantes. Enfin, je veux dire, je nie pas nos différences. Moi, je me retrouve pas du tout, par exemple, dans les lignes que peut défendre le Parti Socialiste. Donc, j'ai pas de doute sur les différences qui nous animent. Mais là, il y a tellement à faire, parce que on parle, quand je parle à ce micro, je parle à des personnes qui probablement pour une très grande partie ne savent pas ce qu'elles vont manger demain, ne savent même pas si elles auront l'argent pour manger les trois repas de demain, surtout quand elles ont une famille. Aujourd'hui, il y a, et ça c'était avant le choc pétrolier, il y a une famille sur trois qui, en France, qui ne mange pas tous les jours trois repas par jour. Je veux dire, à un moment, moi, j'entends bien que les uns sont des traîtres, que les autres sont infréquentables, mais enfin, ça me semble très, très, très secondaire, en réalité, ces diversions entre nous, par rapport à la réalité sociale et à la réalité écologique. Sur 9 limites planétaires, on en a déjà dépassé 7.
Ouais.
Et dont la dernière est une des plus importantes, c'est l'acidification de l'océan. Enfin, je veux dire, on peut s'amuser à dire, machin, il n'est pas gentil, mais enfin, c'est pas le sujet, quoi.
Et Tonton là-dedans, comment il va bouger?
Est-ce Tonton vient avec nous.
Tonton, c'est sûr.
Tonton, c'est...
Parce que c'est plus facile quand même. Enfin, il y a une gauche divisée, évidemment, et il y a une droite qui commence vraiment à s'unir, de la Macronie jusqu'à l'extrême droite. Nous, on se dit, d'un côté, ils sont costauds quand même, et de l'autre côté, la gauche, qu'est-ce qu'on fait?
Ben, d'où ce livre pour dire, en fait, nous sommes nombreux et nous sommes vraiment, je crois que nous sommes la majorité. Simplement, pour que nous devenions effectivement la majorité, il faut que nous nous reconnaissions, que nous soyons certains et certaines d'être en capacité de gagner. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que chacun va rentrer chez soi, va faire son petit jardin et va faire ses petites activités et va oublier qu'en fait, sa voix est très importante, va oublier que peut-être même juste une heure à tracter, ça va être décisif. Et c'est ça, ce livre, c'est de dire, attention, soyons conscients que la bataille n'est pas perdue, les amis. Et donc là, c'est le moment de nous bouger, c'est pas le moment de nous enfermer, au contraire.
D'où ce livre-là où vous expliquez, vous rassurez sur partout là où on vous attaque.
Oui, exactement. Parce que c'est dur, et pour l'avoir vécu, je sais, et je sais aussi que les gens qui nous écoutent l'ont sans doute vécu aussi. Quand on est à une table et que on se prend une diatribe de tonton qui nous explique que ça va trop loin, que ça fait monter le Rassemblement National, que c'est bon, queer, il sait même pas ce que ça veut dire, et que l'écologie, il le fait parce que regarde, il a trié ses déchets hier. Je veux dire, on se sent presque accusé de porter des combats sociaux et sociétaux, et ce livre est pour nous déculpabiliser. C'est nous qui avons raison, ne l'oublions jamais, c'est nous qui avons raison. Le racisme est un délit, le sexisme est un délit, l'écologie, enfin l'absence d'écologie est aujourd'hui une responsabilité historique et nous emmène vers un chaos dont nous ne mesurons pas encore l'ampleur. Donc je veux dire, il n'y a pas de sujet, c'est nous qui avons raison. Donc on reprend confiance en soi et on y va.
Ah bah si avec ça vous n'êtes pas convaincu. Merci d'avoir accepté
Merci
notre
beaucoup.
Invitation, Sandrine Rousseau. Bon courage et tous nos voeux pour l'ensemble des luttes à venir. Je rappelle le titre de votre livre, à lire absolument, évidemment. « Tu nuis à la cause » qui est paru aux éditions La Meute.
Et en plus, la couverture est magnifique, il y a des petites fleurs. Ce n'est pas moi qui l'ai choisie, c'est l'éditrice. Vous pouvez la mettre en cadeau direct pour tonton. Vous verrez, c'est printanier, c'est tout à fait... Vous le mettez entre les autres packs et c'est tranquille.
Ce numéro spécial de Bien au contraire, l'émission qui réfléchit sans en avoir l'air, s'achève. Nous nous retrouvons à la fin de ce mois pour de nouvelles thématiques. Bye bye.